Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, nous venons d'écouter de nouveau, je dis de nouveau parce que, voilà, c'est tous les ans, nous écoutons cette parabole du bon samaritain. Aujourd'hui, par légère anticipation, nous commémorons aussi la mémoire de Saint Martin de Tours, dit Saint Martin le miséricordieux, et je voudrais dire quelques mots en préalable sur Saint Martin. Saint Martin, Martin, était né en 316 d'un père légionnaire. Il était né au gré des garnisons de son père en Pannonie. En Pannonie, ça ne vous dit rien, la Pannonie, mais si je vous dis en Hongrie, ça vous dira quelque chose. Mais voilà, la famille était originaire de la région de Pavie, en Italie, du Nord. Et ce jeune Martin, très jeune, était attiré par la vie monastique. Mais il a dû se soumettre à la volonté de ses parents de rentrer dans l'armée. D'ailleurs, son nom de Martin, dérivé de Mars, le dieu de la guerre, dit bien à quel avenir ses parents le destinaient. À 18 ans, il se produisit l'événement le plus connu de sa vie, qu'on a évoqué tout à l'heure dans le chant. Il rencontre à Amiens, en Gaule, en hiver, un pauvre, à moitié nu, grelottant de froid. Il avait déjà distribué tout ce qu'il pouvait donner. Il ne lui restait sur lui que son manteau. Alors, d'un coup d'épée, il tranche son manteau en deux et il en fait don de la moitié à ce pauvre homme gelé. Et la nuit suivante, il vit le Christ lui apparaître, vêtu de la partie du manteau dont il avait recouvert le pauvre. Et il l'entendit dire à la multitude des anges qui l'entouraient, « Martin, encore catéchumène, m'a couvert de ce vêtement. » Peu après, Martin fut baptisé et il voulut quitter l'armée pour devenir moine. Mais il en fut empêché par les autorités. Et il resta dans le monde tout en étant déjà moine en lui-même, au fond de son cœur. Et il n'obtint son congé de l'armée que beaucoup plus tard, étant devenu officier de la garde impériale. Il avait 40 ans. Et lorsqu'il fut libéré, il se précipita à Poitiers. À Poitiers parce qu'il avait entendu parler de Saint-Hilaire. Saint-Hilaire dont la renommée était très grande parce qu'il avait lutté en parallèle de Saint-Athanase en Orient. Il avait lutté contre les hérésies et en particulier l'hérésie arienne. Donc il s'attacha à cette personne de Saint-Hilaire qui devint son père spirituel et qui lui donna la bénédiction pour aller vivre en ermite. Mais après diverses pérégrinations, Martin revint s'installer non loin d'Hilaire où il était dans une petite cellule à Ligugé. Peut-être vous avez entendu parler de Ligugé, près de Poitiers. Il devint rapidement un moine expérimenté, si on peut dire, et sa réputation attira bientôt de nombreux disciples. Et ses qualités majeures qu'il cultiva tout au long de sa vie étaient en premier lieu l'humilité, puis la pauvreté et la prière continuelle. Au bout d'une dizaine d'années, le siège épiscopal de Tours étant devenu vacant, les fidèles des Tourangeaux vinrent l'arracher à sa solitude et le firent consacrer évêque, un peu malgré lui. C'était en 371, il avait 55 ans déjà. Mais Martin ne modifia pas sa façon de vivre en profondeur. Même humilité de l'âme, même pauvreté dans son train de vie. Son biographe s'appelait Septime Sévère. Il avait écrit « Il avait toute la dignité d'un évêque sans abandonner le genre de vie et la vertu d'un moine. » Épris de solitude, il n'en était pas moins un évêque conscient de sa mission apostolique dans cette Gaule encore peu christianisée, sauf dans certaines villes, mais les campagnes étaient encore très païennes. Martin organisa les premières paroisses rurales. Il parcourait les campagnes en proclamant le message du Christ et de nombreux miracles accompagnaient ses prêches, si bien que le troupeau de celui qu'on surnommait l'apôtre des campagnes grossissait rapidement. Sa réputation était si grande que son autorité s'imposait même aux plus hauts personnages. Il s'était rendu une fois auprès de l'empereur Maxime à Trèves et il ne craignait pas de manifester devant l'empereur la prééminence de la dignité épiscopale sur le pouvoir temporel, si bien que l'impératrice en fut admirative et, pour montrer son admiration, elle insista pour le servir à table comme une servante, toute humble. Que ce soit dans son monastère comme dans son évêché, Saint Martin faisait partout preuve d'une humilité et d'une charité exemplaires, et quelle que soit son occupation, il ne cessait jamais, jamais de prier Dieu. Comme le Christ et comme tout chrétien engagé, il dut subir des épreuves, endurer des calomnies, subir le mépris, des accusations injustes, même de la part de ses proches, sans jamais se départir de sa sérénité pardon, et de sa charité. Il avait 81 ans lorsqu'il visita les paroisses rurales et il tomba malade. Alors il rassembla ses disciples et leur annonça sa mort prochaine. Refusant tout réconfort, il persévéra jusqu'à la fin dans la prière. Et comme le diable lui apparaissait pour tenter une dernière fois, le saint le railla en disant « Tu ne trouveras rien en moi qui t'appartienne, maudit. C'est le saint d'Abraham qui va me recevoir. » En prononçant ces paroles, il rendit son âme à Dieu et son visage s'illumina. Et Septime Sévère écrivit « Son aspect était tel qu'il semblait se montrer dans la gloire de la résurrection future et dans la nature d'une chair transfigurée. » C'était le 8 novembre 397. On transporta son corps à Tours et ses funérailles eurent lieu le 11 novembre, en présence d'une multitude de fidèles accourus des villes et des campagnes environnantes. Pendant des siècles, de nombreux pèlerins sont venus à Tours pour vénérer les reliques de celui qui est considéré comme le saint protecteur de la France. Et pour moi, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'armistice de la Grande Guerre, que nous allons commémorer demain, fut signé un 11 novembre. Alors l'évangile du bon samaritain qu'on vient de lire convient bien pour cette fête de Saint-Martin, car on peut dire que sa vie nous montre qu'il a été lui-même, Saint-Martin, un bon samaritain. Le Seigneur, par cette parabole du bon samaritain, voulait sans doute nous faire comprendre que le prochain, ce n'est pas seulement celui qui est proche de nous par les liens de la race, les liens du groupe humain auquel nous appartenons, mais que notre prochain, c'est tout homme, dont nous croisons le chemin à un moment ou à un autre. Le Seigneur invitait les Juifs de son époque et nous-mêmes aujourd'hui à franchir les limites d'une conception par trop étriquée de la fraternité et de la solidarité humaine. Mais les pères de l'Église ont interprété cette parabole d'une façon plus profonde, sans doute plus proche de la pensée du Christ. D'abord, l'homme qui gisait au bord de la route, blessé et dépouillé par les brigands, c'est toute l'humanité, c'est nous-mêmes. Toute cette humanité qui, depuis la faute de nos premiers parents, a été blessée par Satan et dépouillée de la vie divine que Dieu lui avait donnée au paradis. Ensuite, le prêtre et le lévite qui passent sans s'arrêter symbolisent la loi juive qui, dans sa rigueur, annihile les élans du cœur. Vous avez entendu saint Paul en parler tout à l'heure, et retient la grâce du Saint-Esprit. Il fallait que Dieu s'incarne dans la personne du Christ, qui est véritablement le bon Samaritain. C'est lui qui se penche sur notre humanité blessée et se charge de lui rendre la vie. Le Christ, bon Samaritain, confie le voyageur blessé à l'hôtelier. L'hôtellerie, voyez-vous, c'est l'Église, bien sûr. C'est l'Église où le pauvre blessé va être soigné. Il va être oint d'huile et de vin qui représentent les sacrements qui nous communiquent la grâce divine qui va nous rendre à la vie véritable en Dieu. Assurément, saint Martin fut un de ces hôteliers qui ont marqué l'Église au cours des 20 siècles d'existence. En allant au-devant des habitants des campagnes, en y faisant construire des églises, en leur donnant des prêtres et en rendant possible la présence de l'Esprit-Saint. C'est ainsi que notre pays est devenu chrétien en profondeur. En donnant 2 deniers à l'hôtelier pour prendre soin du blessé pendant son absence, le Samaritain sous-entend une absence de 2 jours. Le denier, c'est le salaire journalier de l'ouvrier en ce temps-là. Il y a des paraboles qui le montrent bien. Et c'est un symbole très fort et prophétique. Pourquoi 2 jours? Eh bien oui, après sa mort en croix, le Christ sera 2 jours au tombeau. Et le 3e jour, il ressuscitera en gloire pour permettre à l'homme de retrouver le chemin de la vie éternelle. À travers les saints qui ont jalonné toute l'histoire de l'Église, à travers leur enseignement, à travers la présence de l'Église parmi les populations christianisées, l'action du bon Samaritain continue à s'exercer, à s'accomplir chaque jour en nous pour nous guérir spirituellement, pour guérir toutes nos plaies. Car nous sommes tous blessés d'une manière ou d'une autre. Et c'est grâce à ces saints, ces hôteliers qui ont la charge de s'occuper de nous, de verser sur nos corps et dans nos âmes l'huile et le vin des sacrements et de la grâce divine. C'est grâce à eux que nous pourrons être rétablis et rentrer dans l'intimité de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.